Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne.
Nicole Gibault.
J'en ai un ras-le-bol de ces gens-là.
À mon sens, c'est de l'intimidation.
Geneviève Peterson.
C'est sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper.
La rencontre.
Ouais, mais toi, comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche?
Oui. C'est le juge.
La rencontre Gibault-Peterson.
Salut, Nicole.
Bonjour Geneviève.
Bon, on va revenir sur la mort tragique d'un adolescent de 16 ans happé par une voiture à Saint-Lin-des-Laurentides. Là, c'était un délit de fuite. On a déjà couvert ce dossier-là ensemble. La police qui cherchait qui était le coupable, une personne visiblement qui est partie sans porter secours, sans même se retourner. Ça fait un mois là que les policiers travaillent d'arrache-pied pour identifier qui pourrait être à l'origine de ce délit de fuite-là. Là, on a épinglé une personne, en fait deux personnes, Derrick Pimparé, 21 ans. Les soupçons se tournaient vers lui quand même depuis déjà quelques jours, à tel point qu'il avait quitté Saint-Lin-des-Laurentides parce qu'il était victime d'une campagne, entre guillemets, de salissage sur les médias sociaux. Une autre personne qui a été arrêtée en lien avec cette affaire-là, personne qui habite Jersey, celle-là pour complicité après le fait.
Oui, et d'abord et avant tout, là, quand on parle d'une enquête minutieuse, ben oui. Moi, je salue le travail là, qui a été fait. Parce que, oui, c'est vrai qu'on aurait bien aimé dans les 24 heures, puis tout le monde, tu sais, voulait. Mais sauf que c'est vrai que ça prend une enquête minutieuse, parce que retrouver un véhicule, il semble que c'était le véhicule qu'on a vu, là, tout le monde à la télévision, oui. Hein, retrouver un véhicule et placer un conducteur derrière le volant, c'est deux choses. Et pour le DPCP et pour la justice en matière criminelle, c'est d'une importance capitale. C'est-à-dire que retrouver le véhicule, c'est sûr que c'est très sérieux et important, mais il faut savoir qui le conduisait et dans quelles circonstances, parce que ça peut avoir un impact énorme sur le genre d'accusation et surtout par la suite, si, parce que évidemment, on comprend la présomption d'innocence, mais s'il était trouvé coupable, mais il y a plusieurs facteurs qui deviennent aggravants. Ça fait un mois, il s'est pas dénoncé. Dans quel état était-il préalable à ce drame? D'où il venait? Dans quelles conditions? On comprend ce que ça veut dire. Là. Est-ce que l'alcool était impliqué, etc.? C'est tous les facteurs qui vont être pris en considération s'ils sont en mesure de le prouver. Maintenant, ça fait un mois qu'il travaille d'arrache-pied pour mettre un conducteur derrière un véhicule.
J'ai une question. Puis ça, oui, je comprends que c'est minutieux. Puis dans tous les cas, là, les policiers se doivent d'être exemplaires. Mais étant donné que ça se passait sur les médias sociaux, cette histoire-là, que les soupçons se tournaient vers cet homme-là, Derrick Pimparé, même que sa sœur avait pris sa défense sur les médias sociaux en disant, là, écoutez, là, on va se calmer. On n'avait pas le choix d'être encore plus rigoureux, j'imagine, pour pas se faire dire, ben, on a cédé, si on veut, à la pression populaire de procéder à une arrestation rapidement.
Tu as tout à fait raison. Puis souvent, on peut entendre ça, ben là, ça vous prenait coupable, vous avez trouvé...
Oui, mais la fameuse vision tunnel, là.
C'est ça, la vision tunnel. On dit pas que ce sera pas ça qui va être invoqué. Éventuellement, on sait pas ce qui va être invoqué. Mais peu importe, je pense que c'est quand même du travail très, très, très professionnel qui a été effectué par les policiers
mais
dans ce dossier-là.
Mais un mois, Nicole, imagines-tu, tu as ça sur la conscience, tu vas pas voir la police, tu le sais que c'est toi, tu sais qu'il y a un petit gars qui est mort, ben, ça paraît pas bien.
C'est, mettons que, prenons pour acquis là, que toutes les pistes donnent sur cette personne-là, puis qu'on voit, bon, tu sais, potentiellement, c'est la personne qui sera accusée, puis qu'on pense qu'on est en mesure d'en faire la preuve hors de tout doute raisonnable. Ben, c'est sûr, un mois, là, à avoir ça, sa conscience, un mois à ne pas se déclarer, un mois à fuir, dans le fond, là.
Mais puis l'autre qui l'aurait aidé aussi là-dedans, là.
Exactement. Alors, c'est sûr que ça va avoir comme, ça va avoir un impact sur les facteurs aggravants. Et nettement, je vais m'avancer à dire nettement sur une possibilité de remise en liberté. Parce que si tu as fui pendant un mois puis tu donnes des garanties, je vais me représenter. Un des critères va être obligé d'évaluer sur s'il y a une demande de remise en liberté. Mais moi, je prédis que la couronne va s'objecter clairement à la remise en liberté.
C'est une terrible histoire que la mort de ce jeune Émile Martineau qui marchait en bordure d'une route. Il est allé visiter un ami. Il est allé porter des CV, cherchait un job. Épouvantable histoire.
Pour le deuxième, ben effectivement, c'est pas exactement la nature des accusations.
Ben, c'est complicité après le fait, donc on va suivre ça.
C'est pas déposé.
Ouais.
Alors, j'ai hâte de voir si ça va être complicité, complot. Il y a beaucoup de choses qui me titillent, mais oui, on parle de complicité, puis ça serait dans.
C'est le motif de l'arrestation après ça, t'as raison de le souligner, on verra les accusations.
On verra si le DPCP a décidé de déposer.
Voilà. Bon, on continue, Nicole, cette saga par rapport à la Cour du Québec, la juge Rondeau, le tribunal spécialisé. Le barreau du Québec là, présentait ses recommandations. Et là, c'est vrai, là, la juge s'est opposée officiellement au projet de loi 92. Là.
Ben, après avoir reçu peut-être une fin de non-recevoir de sa présence, on a parlé, j'ai entendu des propos de dire, ben non, ça se fait pas d'amener des juges ou qu'un juge témoigne en commission parlementaire.
Mais elle disait, je vais déposer un mémoire, elle le fait, là, elle le fait hier.
Mais avant tout, là, il y a quelqu'un qui oublie qu'en 1996, il y en a eu des commissions sur la loi sur la justice administrative. Et oui, il y a des juges en chef qui sont allés témoigner. Fait qu'il y a quelqu'un qui l'oublie à quelque part. Moi, j'étais là en 1996. Je me souviens de cette... je me souvenais pas des dates, là. On a dû me rafraîchir la mémoire. Mais oui, ça se fait. Bon, ça, c'est pas fait. On comprend que ça aurait peut-être été un peu difficile d'avoir une conversation limpide, là.
Oui.
On sait pourquoi, là. Puis oui, ça porte un fort malaise. Mais en quelque part, je me dis que ça aurait été important. Bon, ça aurait été important de l'entendre. Par contre, je suis allée me les taper. Je suis allée taper toute la commission de hier, là, quand l'ex-juge Corté et Mme Desrosiers, les deux présidentes de la commission sur rebâtir la confiance publique, ont témoigné. C'est évident que des questions étaient... on sentait, pas un malaise, mais on sentait que c'est pas évident, connaissant la position de la juge Rondeau, qui en soi, oui, c'est vrai qu'on peut penser qu'elle s'oppose, mais oui, il y a des oppositions, puis elle le dit pourquoi. Donc, c'est, à défaut de se faire entendre viva voce, verbe, tu sais, de vive voix, ben, elle le fait dans un mémoire. Le mémoire a une vingtaine de pages. Je l'ai lu. Il y a un résumé qui est un petit peu plus facile à lire, là. Et on voit qu'il y a des points importants. Puis c'est là qu'il faudrait que... Puis ils sont pas loin, je le répète, là.
Mm-hmm.
Et je pense que Mme Corté, Mme Desrosiers ont toutes dit la même chose. On dit toutes la même chose. Il y a des points de convergence. Mme Yvon dit, Véronique Yvon, tout le monde essaie délicatement de les amener à avoir une position un peu plus malléable. Parce que quand on l'appelle tribunal, puis c'était drôle parce que j'écoutais les entrevues, puis quand on parle, Mme Corté parlait d'un tribunal ou d'une division ou d'un tribunal, on ne veut pas se mouiller trop.
Attends, je veux juste qu'on se démêle. La juge Rondeau, là, elle avait fait un peu de son propre chef là, une initiative là, suite au rapport Rebâtir la confiance.
Oui,
c'était pas un tribunal spécialisé, mais c'était une espèce de division spéciale parce que moi, ce que je comprends, Nicole, là, de cette affaire-là, là, comme personne qui est pas dans le système de justice, c'est que la juge Rondeau est pas en train de dire que ça a pas de sens, les recommandations, puis qu'il faut pas organiser les affaires pour que les victimes soient mieux entendues, mieux accompagnées.
Exactement. Je pense que c'est ça le message.
Ouais.
Elle ne résiste pas à un changement de culture. Puis c'est pas parce qu'elle manque d'empathie.
Elle, c'est le tribunal spécialisé qui remettrait en cause la présomption d'innocence, l'impartialité de la Cour.
Pas juste ça. Ça serait beaucoup aussi. Un des irritants, c'est l'indépendance judiciaire pour les institutions. Pourquoi
ça veut dire quoi?
Regarde bien. Dans le projet de loi, on prévoit des projets pilotes dans tel district, tel genre de cours, avec tel nombre de si, avec bon, etc. Ça, normalement, les assignations, le tribunal, qui va siéger où, quel juge, dans quel district, etc., ça relève de la Cour. du Québec. C'est ça le rôle de la Cour du Québec, comme juge en chef, là, d'assigner des gens, de voir où elle, ce que j'ai compris dans son projet accès, oui. Qui est accusation dans un contexte conjugal et sexuel, mm. puis qui va commencer là, alors en janvier, ben c'est que ça serait un petit peu, elle va diriger un peu le tout là dans au Québec, puis d'essayer d'implanter ça de façon graduelle, mais pas juste dans un district, puis qui, quoi, quand, comment. Ça, normalement, ça devrait être sa responsabilité, pas la sienne, mais la responsabilité de la Cour, de la juge en chef, oui, dans les circonstances. Et il y a des irritants comme ça. Puis c'est là-dessus, si on dit qu'on s'ingère dans cette indépendance institutionnelle, parce que l'institut comme tel, c'est leur devoir de dire, à telle place, à Chicoutimi, il va y avoir telle division, oui, il va y avoir telle autre division. Si quelqu'un d'autre, par une loi, le fait, c'est là que j'ai peur qu'on fasse des contestations judiciaires. Oui. Et c'est ce que je disais ce matin en entrevue. J'ai peur que ça s'étire, mais que ça s'étire au niveau constitutionnel, parce qu'il y a plusieurs constitutionnalistes qui se sont penchés là-dessus, puis ont dit, un instant, c'est un terrain qui c'est mou comme terrain, n'allez pas là. Bon, alors, moi, je vois une longue contestation, mm, puisqu'on veut pas. Donc, j'ai compris, puis c'était très délicat de la part de Mme Corté, très délicat de la part de Mme Desrosiers, de dire, écoutez, il y a des points de convergence, Mme Yvon le dit également, il y a des points de convergence, appuyez ceci là-dessus, travaillez ensemble.
Oui, la chasse gardée, on peut mettre ça de côté, la
le
politique aussi, tout le monde.
Le barreau suggère, puis il n'est pas contre, il n'y a pas de personne là. C'est comme marcher sur des coquilles d'œufs, qu'on l'appelle tribunal.
Ben, on a fait des comités transpartisans. Je pense qu'on est capable d'arriver à quelque chose. Bon, on va continuer.
Je pense qu'on le souhaite, tout le monde.
Ben, les victimes aussi, parce que ce sont les premières à partir de ces délais-là. Brièvement, Nicole, on revient sur cette alerte Amber, la plus longue quand même à avoir été déclenchée, là, malgré des garanties qui ont été offertes au tribunal. Le juge a refusé de remettre en liberté le père de famille là, qui est auteur présumé de cette alerte-là. Là.
Oui, et c'est sa prérogative, évidemment, mmh, après avoir entendu la preuve. Il y a des critères bien spécifiques à suivre dans le code criminel. Oui. Même si on offre des garanties, les meilleures garanties du monde, si on n'a pas, si selon la preuve qui a été présentée, mais il y a un ordonnance.
Mais il y a des antécédents, cet accusé-là.
Mais si, effectivement, selon la preuve qui a été présentée, comme je dis, il y a des ordonnances de non-publication.
Exact.
Là, le fait que ça a été entendu et décidé, c'est parce que ça n'a pas fait en sorte que le juge était convaincu, mm, qu'une remise en liberté, en tout cas qu'on a respecté la preuve là-dedans qu'on pouvait le remettre en liberté. Alors, c'est pour ça qu'on le fait pas, puis même avec les plus grands objectifs.